Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Bonjour, aujourd'hui pour notre balado, je vous propose une nouvelle formule. Nouvelle formule parce que pour la première fois, j'accueille un invité à notre balado. Cet invité, c'est Martin Auger. Il est gérant de territoire pour le Québec, pour BRP. Mais la raison pour laquelle Martin est ici avec nous aujourd'hui, c'est qu'il était là aux origines du projet du CANAM Spider. Donc, à partir du moment où, chez BRP, ils ont eu cette idée de développer un nouveau véhicule, ce n'était qu'un concept, il a suivi, évidemment, toutes les étapes de développement, d'essai de prototype, jusqu'à la commercialisation du Spider que l'on connaît maintenant, là, qui évolue sur les routes depuis maintenant plusieurs années. On va aussi parler brièvement de ma petite contribution personnelle au développement de cette machine. Martin m'avait invité pour conduire les tout premiers prototypes du CANAM Spider dans le plus grand secret d'ailleurs. Donc, on va parler de ça. Je dois aussi vous présenter des excuses parce que au moment où on a réalisé cette entrevue avec Martin, j'étais vraiment sur les derniers kilomètres d'une extinction de voix qui était assez sérieuse. Donc, je vous prie d'accepter mes excuses pour le son de ma voix lors de cette entrevue. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc l'histoire du CANAM Spider, des origines jusqu'au produit commercial que l'on connaît maintenant avec Martin Auger de BRP. Ici Gabriel Gélinas du Guide de l'Auto. Montez à bord avec moi pour cette série de podcasts au cours de laquelle il sera question de performance, de technologie, d'histoire et surtout de notre rapport avec l'automobile.
Au volant avec Gabriel Gélinas.
Martin Auger, dans un premier temps, qui a eu l'idée chez BRP de concevoir ce Spider, ce nouveau véhicule qui n'existait absolument pas à l'époque?
Ben bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Écoute, la réponse n'est pas aussi simple qu'on voudrait le croire. J'aimerais te donner un nom et on pourrait féliciter cette personne-là tout de go, si c'est pas le cas. C'est un travail d'équipe,
okay.
Comme un paquet de projets là. Et puis à l'époque, c'était un petit groupe qui était dirigé par notre vice-président senior Denis Lapointe, qui est en charge du design et des concepts avancés. Et puis là, ça c'est un projet qui faisait partie justement de la liste des concepts avancés, des produits qui sont mis en marché de 5 à 8 ans. Devant nous. Et puis, Denis tenait fortement à la représentation ou la façon de travailler qu'on appelle la triade, où les trois groupes ont la même voix sur un comité, soit l'ingénierie, le design et le marketing. Donc, je te dirais que c'est le fruit là, d'un paquet de brainstorm, d'itération, de croisement de passion là, entre les gens autour de la table. Là. Motoneige, sport marin, motocyclette et les sports traditionnels, vélo, mountain bike et tout ce que tu veux, le planche à neige. Et une espèce de petit groupe là, d'allumés qui en sont venus à des prototypes ou des mules là, de la sorte.
Et c'est justement là où on arrive parce que au début, vous avez conçu, littéralement bricolé à la main, quelques prototypes pour faire des tests, pour faire des évaluations. Vous saviez pas nécessairement dans quelle direction ça allait aller. Vous étiez vraiment aux premières ébauches. Parle-nous un petit peu de ça, l'élaboration des premiers concepts du Spider.
C'est exact, c'est un bon point parce que ça se fait en parallèle hein, entre un mule ou une mule ou un prototype qu'on veut tester jusqu'à une preuve de concept.
Mm-hmm.
Et à partir de là, comme tu le mentionnes, c'est en atelier des bricolages. Étant un manufacturier de sport motorisé, ben tu as quand même accès là, à un paquet là, de châssis, de mécanique, d'outillage, exactement, de matière, de toutes sortes. Et d'un autre côté, en parallèle, se développe tout de même à haut niveau un plan d'affaires.
Ouais.
Parce que fabriquer des babelles ou des prototypes juste pour le plaisir, là, c'est pas l'essence de la chose. Là.
Mm-hmm.
Le but, c'est de se rendre, si on a un bon filon en commercialisation, là, puis créer, dans ce cas-ci, un nouveau segment. Hein. C'est carrément ça. Là.
OK. Puis, si je me souviens bien, on est en 2002, si ma mémoire est bonne, et on se connaissait pas à l'époque. Et tu as pris le téléphone, puis tu m'as appelé pour me dire, pour m'inviter à conduire. Tu m'as dit dans tes mots, je me souviens très bien, je veux te faire essayer une nouvelle machine. Mais tu m'as juste dit ça. Tu m'as pas dit qu'est-ce que c'était, cette machine-là. Tu m'as dit qu'il fallait que ce soit confidentiel, mais que tu voulais avoir comme mon feedback sur ce que vous faisiez finalement. Et puis, je t'avais demandé pourquoi tu m'avais appelé moi. Parce que, tu sais, je faisais pas de motoneige, je faisais pas rien, quoi que ce soit. Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de me contacter aussi? Tu m'as pas contacté que moi, t'as contacté aussi, je pense, un journaliste moto italien, un journaliste qui était spécialisé aussi en motoneige.
Exactement.
Tout ça pour nous faire conduire les prototypes. Donc, où t'es venue cette idée-là de faire conduire les prototypes par des journalistes, finalement?
Ben, l'idée derrière ça, Gabriel, c'est que à force d'y travailler, c'est un projet qu'on croyait très porteur. Mm-hmm. Puis on vient un petit peu aveuglé ou omnubilé sur le projet. Puis il faut avoir une vue beaucoup plus objective. Donc évidemment, ultimement, on veut tester le concept auprès des vrais consommateurs, des potentiels utilisateurs. Mais d'entrée de jeu, on s'est dit le produit est tellement différent. On veut aller chercher du feedback de différentes industries et pour ce faire, des journalistes qui touchent à beaucoup de produits auraient un feedback, d'après nous, de qualité, sans nous faire plaisir, sans être subjectif, mais bien le plus objectif possible. Puis comme tu sais, dans le plan d'affaires, on en avait déjà discuté, le produit se situe un peu entre une voiture sport décapotable et une motocyclette traditionnelle là, qui penche dans les courbes. Donc là, on s'est dit, il faut absolument toucher à des gens qui ont un profil près de ça. À l'époque, si je me souviens bien, on connaît bien ta carrière automobile, mais tu écrivais aussi des billets dans Motojournal, sachant que par plaisir, t'es motocycliste à tes heures aussi. On se disait, waouh, c'est un gars local qui a une vue quand même des marchés à 30 000 pieds sur 5-6 continents. On aurait un feedback intéressant de son point de vue moto et automobile. D'un autre côté, on a invité un pur motocycliste italien de motociclismo vraiment le feedback, le motocycliste européen, le dur, là, qui a des préjugés, là, que tout ce qui n'a pas de roues, c'est pas bon à la limite, là, et pour un peu débattre notre idée. Et d'un autre côté, un pur journaliste automobile américain. Je me souviens plus si c'était Edmunds ou un autre firme. Là. Fait qu'on se disait, avec ainsi que Kevin Belkey du monde purement de la motoneige,
exact.
Fait qu'on se disait, ces quatre joueurs-là en discussion, après avoir fait des essais, leur tirer un peu les verres du nez, eux, est-ce qu'il y avait une opinion comme quoi c'était un filon intéressant ou au contraire, là, quels étaient les freins face à un type de produit comme ça? Ouais.
Donc, on a pris l'avion, on est allé jusqu'à, si je me souviens bien, un avion jusqu'à Orlando, en Floride, pour ensuite se rendre à un petit circuit à Jennings, en Floride. Et je me souviens très bien, lorsqu'on s'est rendu là, c'était un petit circuit régional, là, c'était pas une piste d'envergure internationale ou quoi que ce soit. Un peu comme si on était, par exemple, à l'autodrome Saint-Eustache, mettons, si on voulait qualifier un peu le genre de circuit. Et je me souviens, par contre, que vous aviez tendu des toiles sur la clôture, de façon à ce que les gens qui passent sur la rue ne pouvaient pas voir ce qui était sur la piste. Mm-hmm. Et que vous aviez aussi des tentes dans lesquelles se trouvaient les prototypes qui eux-mêmes étaient recouverts de toiles. Donc, c'était vraiment très, très secret à ce moment-là.
Oui, c'est un bon point. Puis, un peu comme les manufacturiers automobiles, la gestion de l'information et la confidentialité est clé. Mm-hmm. Comme les projets actuels qu'on développe, évidemment, ne sont pas de nature publique. C'était de notre grande inquiétude au balbutiement là, de se faire prendre des photos espions là, comme dans le monde de l'automobile. Alors, des tentes avec une toile horizontale nous permettaient, bon, quand on roulait sur le circuit, on essayait d'être le moins exposé possible. Mais dès qu'on était en mode discussion ou qu'on laissait reposer les véhicules, on s'assurait de les installer sous les tentes pour changer de pilote ou autre. Puis là, on pouvait pas se faire photographier, là, soit des airs ou d'autres points de vue. Là. On essayait de calculer un peu tous les angles, si on veut.
Puis je me souviens bien, à cette époque-là, les deux machines que j'avais testées à ce moment-là, il y en avait une qui avait un moteur Aprilia hyper performant. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de système de contrôle, la traction, il n'y avait pas d'ABS, il n'y avait aucun système électronique encore, ça n'existait pas pour, ça n'avait pas encore été développé pour cette machine-là. Donc, on conduisait à ce moment-là des machines qui étaient très, très, dans le cas d'une, certainement très performantes, voire même presque radicales. Moi, je me souviens même que dans certains virages, la roue intérieure décollait complètement. Pour moi, c'est vraiment apprivoiser une toute nouvelle bête. J'avais jamais vu ça avant.
Bien sûr.
J'avais jamais piloté ça avant. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais on sentait tout de suite qu'il y avait comme deux directions dans lesquelles on pouvait aller. T'sais, soit une machine vraiment hyper performante ou alors quelque chose plus monsieur et madame tout le monde ou quelque chose de plus facilement apprivoisable. Tiens, on va dire ça comme ça. Alors, quel a été votre thinking à partir de ce moment-là? Parce que il n'y a pas juste moi, il n'y a pas juste d'autres journalistes qui ont testé ces machines-là. Vous avez des ingénieurs qui ont testé aussi.
Bien sûr.
Vous avez des pilotes d'essai et tout. Donc, quelle était votre démarche à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez ces deux concepts-là ou ces deux machines-là, dont une qui était hyper performante, l'autre un peu moins? Comment est-ce que vous avez pris la décision d'aller dans la direction dans laquelle vous êtes allé?
Ben écoute, tout ça est basé sur les principes marketing de base là, d'études de marché. Là, on était dans nos feedbacks initiaux quand on a eu l'invitation là, sur le circuit de Florine, circuit de Jennings. Dans ce cas-ci, notre objectif, c'était de recueillir du feedback de votre part, entre autres comment les futurs consommateurs pourraient percevoir le véhicule.
Mm-hmm.
Parce que la perception, comme on dit en marketing, perception is reality. Donc, c'est très sensible, c'est important. D'un autre niveau, les grandes lignes qu'on tentait d'exploiter, c'était de voir les futures sous-segmentations d'une ligne de produits comme ça.
Mm-hmm.
Alors, jusqu'à quel point il pourrait y avoir un modèle touring, jusqu'à quel point il pourrait y avoir un modèle urbain, plus compact, plus économique, ou à l'inverse, un modèle sport. Parce que on se rappelle, au début des années 2000, les ventes des motosports étaient encore des chiffres intéressants.
Ouais, c'est vrai.
En Amérique du Nord et en Europe aussi, là, la culture de la motosport en Europe, c'est très bon. Puis, pour revenir au prototype dont tu parlais, Rotax, notre firme de moteurs en Autriche, était le motoriste pour quelques moteurs pour l'entreprise de moto Aprilia.
Ben oui, les motos italiennes. Ouais,
voilà. Ouais, donc, ce V2-là, qu'on appelle le 990, est un V2 axé sur la performance. J'ai pas souvenir, mais dans certaines configurations, on l'a développé un petit peu plus de 135 chevaux avec un moteur très vivant, là, avec beaucoup de reprises. Et puis, c'est un peu ça là, qu'on voulait valider. C'est-à-dire qu'en développant une mule ou un prototype comme ça, on s'en va sur un circuit ou un environnement fermé. On savait qu'on développait pas un produit de piste,
mm-hmm.
mais on n'avait pas le choix d'être sur un environnement de piste.
Exact.
L'idée, c'était de faire des départs arrêtés, certaines vitesses aussi de croisière, négocier des courbes pour avoir un environnement qui se rapproche un peu plus de l'usage régulier, qui n'est pas une piste. Mais bon, on était sur une piste, alors étant amateur, on se fait plaisir aussi. Là. Mais l'objectif, c'est de voir quelle est la flamme derrière le guidon. Est-ce qu'il y a un réel plaisir?
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'on vit? Et comment on peut le décrire? Et comment on peut l'améliorer pour en faire un produit fini qui va faire vibrer le consommateur, là, parce que on est quand même sur un terrain vierge. Un produit semblable à ça, il n'existait pas grand-chose. On avait le T-Rex de Campagna, local.
Oui, ouais, tout à fait.
Il y a certains produits de niche en Europe là, qui sont carénés au complet, fermés, et qui s'inclinent dans les courbes avec deux roues avant, une roue arrière. Mais c'est vraiment des produits là, artisanaux. Là.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a comme rien qui existe réellement, là, à part certaines motos américaines avec deux roues à l'arrière et une roue à l'avant.
Ouais.
Mais là, on est dans un monde tout nouveau. Là. Fait que ce qu'on essaie de faire vivre aux gens, dans ce cas-ci, les gens de l'industrie proche, c'était de voir l'émotion qu'on réussit à créer. Est-ce que c'est un filon sérieux,
mm-hmm.
ou on est à côté de quelque chose de pas intéressant, finalement.
Bon, faut croire que notre feedback a été bon parce que vous avez décidé de poursuivre dans un premier temps. Mais ensuite, je me souviens... On a comme perdu un petit peu de contact pendant quelques années. Et par la suite, moi, j'ai reçu un coup de fil de BRP, justement, pour aller tester une autre série de prototypes plusieurs années plus tard, cette fois-ci sur les routes publiques dans la région de Valcourt. Mais là, on sentait vraiment qu'on était beaucoup plus près du produit actuel. Donc, il y avait effectivement les systèmes anti-patinage. Puis il y avait,
exact.
Et vous étiez encore, je pense, en fine-tuning, en calibration, mm-hmm. pour ça. Donc, j'aimerais que tu me parles aussi, parce que je sais que toi, Tu as testé aussi des prototypes et de la façon dont vous faisiez ça. On l'avait fait d'abord sur une piste de course, mais il fallait aussi aller rouler sur les routes publiques.
Bien sûr.
Et vous roulez avec une machine que personne ne connaît, que personne n'a vue. Vous voulez garder ça secret.
Oui.
Comment est-ce que vous avez fait pour rouler sur les routes publiques sans vous faire, entre guillemets, prendre par quelqu'un qui avait un appareil photo sur lui?
Ouais, je dois t'avouer que c'est difficile. De temps en temps, il y a moyen de louer des circuits ou les anneaux de vitesse, l'anneau de vitesse de Blainville, ou d'aller dans des coins plus reculés. Là, une des stratégies est de suivre relativement près un objet avec un certain volume comme un camion cube. Là. Mm-hmm. Ça protège quand on croise quelqu'un à 70-80 km/h. Ça protège des regards indiscrets. Là. Mais ça... On s'en sauve pas, il y a toujours une portion de risque là. Mm-hmm. Les véhicules sont exposés ou si on a un pépin technique, on veut mécaniser sur le côté de la route, c'est gênant. On a des housses, on a des toiles, mais bon, c'est toujours sensible ça. Mais j'aimerais t'amener un autre point, Gabriel, un autre commentaire sur l'événement de piste. On a invité des gens avec des profils particuliers. On en a profité aussi en même temps, je sais pas si t'étais là, mais certains collègues de la haute direction, dont notre grand chef, Laurent Beaudoin, qui ne l'avait pas essayé, et on l'a invité sur ce circuit-là. Pour peut-être c'est juste avant ta présence, je n'ai pas souvenir, pour obtenir du feedback. Parce que mine de rien, nos hauts dirigeants à BRP sont des fanatiques. Là. Je veux dire, ce ne sont pas des comptables cachés dans un bureau. Là. C'est des gens qui apprécient les produits, qui les poussent, qui participent au brainstorm, qui amènent des idées, qui challengent les équipes. Donc, sont très là, portés sur le comportement des produits.
Mais justement, parce que tu parles des gens de la haute direction, quel a été leur feedback à eux? Parce que c'est eux, finalement, qui devaient donner le feu vert au projet.
Clairement.
C'est eux qui devaient aligner les sous, qui ont dû débloquer des budgets pour développer ces machines-là. Donc, il fallait qu'ils y croient. Mm-hmm. Il fallait que, en quelque part, vous leur vendiez l'idée que le projet était valide, c'était valide, que c'était possible de le faire. Et quel a été leur feedback à eux? Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de prendre un moteur justement qui était déjà connu chez vous pour ce produit, le BRP, le Spider.
C'est un bon point. T'sais, évidemment, il y a une enveloppe budgétaire qu'il faut se créer à l'interne et qu'il faut respecter aussi en termes de cadre. D'un autre côté, le premier feedback, je dirais, des joueurs clés, dont en particulier Laurent Beaudoin, c'est du non-verbal. Il enlève son casque, on voit son visage. Il y a un sourire évident. Il y a le goût d'en parler. Il y a des nouvelles questions suite à ses essais. Et là, ça déboule. Là. Mm-hmm. Mais tout ça suit un processus, si on veut, là, qu'on dit en anglais, de gate ou de stade. Là, mm-hmm. En disant, ben les équipes, voici un budget supplémentaire et amener le prototype à un autre niveau. Là, mm-hmm. Pour amener justement la recherche marketing et le plan d'affaires le plus pointu et le plus précis possible. Pour voir quel genre de volume on peut atteindre en fonction de quel investissement. Puis ton point est bon, une des conclusions suite à ces essais-là, c'était continuons de faire avancer le projet, parce qu'on se souvient qu'il y a eu des délais tout de même, là, puis il y a eu la crise financière et ainsi de suite. Là,
ouais,
parce que les lancements ont lieu plutôt en 2008-2009. Mm-hmm. Nous, on parle de pré-essai ensemble en 2002, donc
ouais, c'est ça.
Il y a toute une marge. Fait qu'entre les deux, il y a une continuité de développement, des fonds injectés, on amène ça à un autre niveau, des partenaires, de l'électronique et ainsi de suite, pour s'arriver plus près d'un produit fini qui est souhaitable. Mais d'un autre côté, il faut toujours le calibrer en fonction du plan d'affaires. Alors, les investissements sont en ligne avec le potentiel de marché. Un produit qu'on pourra vendre 300 copies comme une Bugatti Chiron ou à l'inverse, une Golf chez Volkswagen a tellement un impact complètement différent. Là.
Ouais, c'est ça.
Donc, nous, on se situe entre les deux. C'est un produit de masse, mais quand même des volumes... là. Différent de l'automobile, si on veut.
Mais votre visée pour ce produit-là, c'était vraiment à l'international, parce que c'était vraiment non seulement au Québec, mais c'était l'Amérique du Nord, c'était l'Europe aussi.
Clairement. Ouais. Je te dirais que à la suite de ça, là, on s'est donné le mandat interne d'un projet que j'ai piloté pour faire les focus groups dans différentes régions du globe. Mm-hmm. Fait qu'on a fait la côte est américaine, la côte ouest pour obtenir des feedbacks. On a fait un saut en France, dans le sud, dans le coin de Nice. On est allé à Francfort. On a fait au-delà de l'Europe aussi pour voir quels étaient les commentaires des potentiels consommateurs avec certaines images ou des films pris du véhicule en action. Tout ça sous entente de confidentialité.
Ouais.
Et avec des films de recherche, on a tiré certaines conclusions pour voir quels étaient un peu les freins commerciaux, mais aussi ce qu'on appelle à l'interne le « wow factor », l'espèce de contentement ou d'exclamation ou de rouler un produit qui est hors norme mais qui génère un plaisir à l'usage.
Aujourd'hui, évidemment, c'est un véhicule qui a connu beaucoup de succès. En tout cas, au Québec, c'est sûr qu'on en voit beaucoup sur la route. Et maintenant, vous en avez aussi décliné d'autres variantes, avec comme par exemple le Ryker, qui est un modèle plus abordable. C'est quoi le thinking de ce côté-là avec le Ryker, plus précisément?
Oui, ben si on recule d'un pas, je te dirais, Gabriel, ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous, on a appris au rythme des clients aussi. Là. C'est-à-dire qu'on avait notre idée initiale du produit, qu'on a développé et lancé, mais tout ça s'est affiné avec le temps, avec justement les commentaires d'une grande qualité de nos utilisateurs. Et BRP, je dirais, dans les derniers 10-15 ans, est à l'écoute de ses consommateurs vraiment d'un beau niveau. Là. Alors, à partir de là, on prend les commentaires. Les consommateurs voulaient faire plus de distance. On travaille l'autonomie, l'ergonomie, le visuel, les performances. Qu'est-ce qui est important? Il y a certains éléments qu'on croyait importants. Et en jasant avec les consommateurs, c'est d'importance plus ou moins important. Donc, on ajuste tout ça. Et ça nous a permis de créer deux segments principaux chez Spyder, soit la lignée du F3, qui a une position plus relaxe à l'américaine, avec les jambes plus vers l'avant, et le modèle RT, qui est un succès commercial sans borne, clientèle d'RT qui adore comme le véhicule touring par excellence sur la route. Et on avait donc un très, très beau succès Amérique du Nord et mondialement aussi sur ces deux produits-là. Et ce qui nous a permis là, de lancer en 2019 le véhicule Can-Am Ryker. Le Ryker est né de commentaires de nos consommateurs ou de futurs consommateurs qui n'embarquaient pas un peu dans le sport ou dans le produit en lien avec une barrière certaine qui était le prix d'entrée. Fait que beaucoup de gens nous donnaient comme feedback, « Wow, c'est intéressant, ça m'intéresse, mais les coûts sont trop élevés. Donc, si j'y avais accès d'une autre façon, d'un point de vue de la barrière des coûts, je serais très intéressé par le produit. »
All right. Ben écoute, Martin, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue, d'avoir partagé aussi toute ta participation finalement à ce projet unique, vraiment.
Vraiment, oui.
Du Can-Am Spyder, qui est un beau success story du Québec. Alors, merci à toi d'être passé au podcast. Merci, Martin.
C'est un plaisir, Gabriel. À bientôt.
Salut.
Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.